France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le hasard, c'est notre sujet cette semaine. Dans ce deuxième épisode, nous évoquons le hasard dans la vie quotidienne et pratique. Bref, les imprévus et ce qu'en dit la philosophie. Montaigne, dans ses essais publiés en 1580 puis en 1588, évoquait volontiers le mot « hasard » comme un imprévu fréquent et hautement intéressant. À dire vrai, son mot de prédilection était le mot « fortuit ». Le fortuit, c'est ce que la fortune nous envoie. C'est ce qui déroute, nous sortant des voies que nous avions prévues pour agir ou tout simplement pour organiser notre journée. C'est aussi la chance de la rencontre amicale ou amoureuse. Autant dire que se joue peut-être dans les hasards quotidiens l'essentiel de nos vies et toute une réflexion sur l'action. Il est bien possible d'ailleurs que proposer une philosophie du hasard soit nécessaire à tout auteur analysant l'action et la politique. Nous parlerons aussi ce matin du tirage au sort si répandu dans les régimes politiques de l'Antiquité et perdurant un peu au-delà. Et puis nous évoquerons Machiavel comme penseur du hasard. Je suis tombée sur une phrase de Charles de Gaulle dans son livre de 1932, Le fil de l'épée, qui me semble faire écho à notre émission d'aujourd'hui. Les aléas de l'exécution viennent bousculer les programmes, mais ne nous dispensent jamais de les avoir établis. Bonjour Bernard Sève.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université de Lille. Vos recherches sont nombreuses, vos ouvrages aussi, et vous êtes en particulier spécialiste de Michel de Montaigne. Bonjour Gérald Sfez.
Enchanté.
Vous êtes professeur honoraire de philosophie en Hippocagne, c'est ça ? En Cagne aussi ?
En première supérieure.
En première supérieure, oui. C'est comme
professeur
ça qu'on dit.
Honoraire, oui.
Hors jargon. Et auteur de plusieurs ouvrages sur Machiavel. Et bonjour Julie Botorel.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8, spécialiste du monde antique et tout particulièrement du matériel et des pratiques politiques à l'époque romaine, héritée parfois des pratiques grecques, nous en parlerons. Vous avez, à vrai dire, énormément à nous apprendre sur le tirage au sort pour désigner des représentants politiques. Eh bien, commençons par la reconstitution expérimentale en 2017 d'une machine à tirage au sort typique de l'Athènes démocratique du 5e siècle avant notre ère. On l'appelle, paraît-il, un clétorion.
Le clérotérion enfin achevé, installé, et peut-être testé.
On va voir, on va vérifier que ça marche.
J'ai deux outils qui sont introduits ici et qui vont contrôler la sortie des sorts.
Tous les citoyens qui appartenaient à une catégorie A, en arrivant, déposaient leurs plaquettes dans une boîte et ensuite c'est mélangé et il y a un préposé qui va insérer ses tablettes dans une colonne, la colonne des alpha, la colonne des bêta. C'est un objet qui est vraiment emblématique de la démocratie.
Sur chacun de ces pinakia est inscrit le nom d'un citoyen. Dans cet exemple, 85 citoyens vont participer à ce tirage au sort, soit 17 rangs de 5 citoyens. 3 cubes blancs pour 3 rangs sélectionnés, 14 cubes noirs pour 14 rangs écartés du tirage.
Voilà, on va tirer les sorts au fur et à mesure.
Lorsqu'un cube blanc est tiré, les 5 pinakia du rang sont placés dans le tas des citoyens désignés pour un rôle politique. Et inversement, les citoyens d'un rang qui reçoit un cube noir partiront sans surcharge de travail.
C'est garanti que les gens sont là vraiment par hasard.
Donc il y a aussi cette idée qui veut que chaque citoyen ait une chance égale de participation à la vie publique.
J'ai dit un clétorion, je ne sais pas d'où est sorti ce mot, je fais beaucoup d'erreurs sur les noms, les auditeurs sont habitués. C'est un clérotérion qui a été donc reconstitué par des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, Julie Botorel, sur cette machine qui a l'air quand même très complexe, très élaborée ?
Oui, alors le clérotérion était une machine utilisée dans la Grèce ancienne, plus spécifiquement à Athènes, à l'époque classique, c'est-à-dire à l'époque où Athènes est une démocratie. Et cette machine donc servait notamment à désigner des citoyens qui fichaient donc leurs tablettes en buis, hein, ce qu'on appelle les pinakia en grec, dans le clérotérion. Et un système assez complexe et ingénieux permettait ensuite de sélectionner des tablettes à l'aide de cubes blancs ou noirs qui était insérée dans une gouttière. Alors cette machine a été reconstituée par Liliane Lopez-Rabatel et Nicolas Bresque, par une équipe autour du laboratoire Isoma à Lyon 2, et nous donne une idée de l'importance qu'avaient justement les pratiques de tirage au sort dans le monde grec antique. À Athènes, le tirage au sort pouvait servir à désigner donc des juges, des tribunaux populaires, mais aussi des magistrats. Presque toutes les magistratures étaient désignées par tirage au sort à l'époque classique, des bouleutes, c'est-à-dire des sénateurs de la boulée, etc.
Des députés, en fait, qui préparent les lois, c'est ça ? Ceux qui préparent
voilà,
les lois.
C'est l'organe,
en quelque sorte. Pas vraiment législatif, puisque les citoyens votaient eux-mêmes les lois, mais on les préparait pour eux à la boulée, c'est ça ?
Voilà. Et alors, au-delà d'Athènes, en fait, le tirage au sort était aussi commun et répandu dans le monde antique. Alors, on en a des mentions, en fait, dans d'autres cités du monde grec, puisque on se focalise souvent sur Athènes et le mirage athénien, mais en réalité, le tirage au sort était tout à fait commun dans le monde grec antique, dans le monde des cités et des communautés. Il était aussi en usage dans le monde sumérien, dans le monde hittite, dans le monde aussi judéen antique, et également à Rome. Alors, l'exemple romain est intéressant parce que Rome ne fut jamais une démocratie. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas d'association intrinsèque, ontologique entre le tirage au sort et la démocratie. Ce qu'on a tendance à penser, on associe même le tirage au sort à une forme radicale de démocratie.
Oui. Est-ce qu'on peut juste dire pourquoi, avant que vous nous montriez que ce n'est pas vrai? On le pense parce que on dit souvent que c'était la manière pour l'Athènes démocratique de pratiquer l'égalité ou l'isonomie. C'est-à-dire n'importe qui peut être élu, quelle que soit sa richesse, sa notoriété. Il y a une espèce d'égalité devant le sort. Donc l'idée est que c'est assez démocratique. Est-ce qu'on se trompe en pensant cela ?
Alors, effectivement, il y a dans le tirage au sort, se joue quand même une égalité, puisque tous les candidats sont mis sur un pied d'égalité, sont traités de la même manière. Alors, le tirage au sort, effectivement, génère de l'égalité, mais n'est pas forcément démocratique. Tout dépend du vivier à partir duquel on tire au sort. Si on tire au sort parmi l'ensemble des citoyens ou parmi un groupe de citoyens présélectionnés par le biais de l'élection, de la cooptation, par des critères censitaires, d'âge, etc. Alors, ce qui explique l'association entre le tirage au sort et la démocratie, ce sont les textes philosophiques grecs, notamment Aristote, dans les politiques, et puis aussi l'usage qu'en a fait Athènes, justement, à l'époque classique. Alors, dans le cas romain, le tirage au sort était utilisé dans la Rome ancienne, mais dans des contextes aristocratiques puis monarchiques. Et souvent, les candidats qui étaient tirés au sort étaient en fait présélectionnés, c'est-à-dire qu'il y avait toute une série de filtres en amont du tirage au sort qui permettaient en fait de réserver cette procédure plutôt à des aristocrates dans la sphère politique.
Est-il vrai que on pouvait en fait accepter ou non le résultat du tirage au sort? Autrement dit, que c'était une procédure pas tout à fait contraignante. Si ça nous plaisait pas, le résultat du sort, souvent, il y avait, alors vous allez nous dire comment, des moyens, d'autres procédures pour ne pas en tenir compte. C'est un peu étrange, j'ai compris cela dans vos travaux, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Oui, alors le tirage au sort, effectivement, n'est pas toujours une procédure contraignante. Il arrivait parfois que l'on décide de ne pas s'en remettre au sort pour certaines décisions qui étaient normalement l'objet d'un tirage au sort. On pouvait choisir de contourner la procédure dans des cas exceptionnels. C'est le cas, par exemple, pour la distribution des provinces, c'est-à-dire des grands commandements parmi les magistrats romains. Dans certains cas, cruciaux, des contextes particuliers, on pouvait décider de contourner le sort pour confier tel commandement militaire à tel magistrat qui semblait particulièrement compétent, qui semblait être l'homme de la situation.
Mais même une fois que ça avait eu lieu, on avait décidé de s'en remettre au sort, et puis ça ne nous convient pas, on change d'avis. Une fois que c'est fait.
Oui, alors effectivement, le résultat du tirage au sort pouvait parfois être annulé, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de détermination via le tirage au sort. Alors ça dépendait en réalité des types de tirage au sort. Par exemple, dans la sphère politique, il était plus simple d'annuler le résultat du tirage au sort que lorsqu'il s'agissait d'un tirage au sort oraculaire, effectué donc dans un temple, sous le regard vraiment des dieux qui pouvaient orienter la décision. Et dans ces cas-là, bien évidemment, il était plus difficile quand même de remettre en question le choix de la divinité.
Il n'empêche, c'est un point très intéressant qui permet de faire des liens peut-être inattendus vers d'autres auteurs que des auteurs que nous évoquons ce matin, Machiavel et Montaigne. Bernard Sève, ménager sa fortune, dit souvent Montaigne. Eh bien, c'est peut-être aussi, c'est une question que je vous pose, ne pas toujours accepter ce que le sort nous réserve, s'en accommoder, faire avec. Alors, bien sûr, le préparer les choses, mais aussi peut-être ne pas tout écouter des signes que semble nous envoyer le hasard.
Alors, Montaigne ne croit pas tellement aux signes.
Contrairement aux Romains et aux Grecs.
Je ne pense pas qu'il y ait de l'oraculaire chez lui. Même s'il croit à la Providence, en bon catholique qu'il est. Mais effectivement, le hasard ne doit pas être un maître. C'est un matériau sur lequel Montaigne pense qu'il faut exercer sa capacité de juger, d'improviser, de réagir. Et par conséquent, quelque chose qui arrive par hasard n'a pas de valeur en soi. C'est un événement qui se passe et dont nous savons que de toute façon il va se passer toutes sortes de choses tous les jours que nous n'avons pas prévues et que nous n'avons pas voulu. Il faut le savoir. Donc
le hasard, c'est impossible. C'est quelque chose qui nous est donné, qui peut être la rencontre de la Boétie et c'est merveilleux, mais ça peut être aussi la rencontre d'un sale type.
Exactement. Et donc il faut à la fois se préparer, savoir réagir, savoir improviser et se souvenir, il y a une phrase de Montaigne que j'aime beaucoup dans le chapitre 12 du livre 3 de la physionomie quand il dit de mes actions, deux tiers sont à la fortune mais un tiers est à moi. C'est pas beaucoup mais c'est une prise quand même. C'est pas 95%, 5%.
Ça suffit pour élaborer ce que la fortune.
Ça suffit pour élaborer, pas se laisser dominer par le hasard et avoir un moyen de faire quelque chose. Bon, c'est intéressant qu'il quantifie. C'est pas Montaigne n'est pas du côté de la quantification et des mathématiques, mais là il dit deux tiers, un tiers. Alors, c'est une formule très parlante.
Oui, diriez-vous aussi, vous avez commencé en disant Montaigne ne croit pas aux signes. Les signes, c'est peut-être une manière, une fausse manière de maîtriser le hasard. On lui donne tout de suite un sens. Et précisément, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut élaborer bien plus, de manière plus complexe, plus riche, qu'en cherchant un signe immédiat pour Montaigne.
Exactement. Montaigne se méfie de la superstition, de ce qu'il appelle la crédulité. Il se méfie des miracles. Même si, encore une fois, il dit toujours qu'il est un bon catholique et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, mais il se méfie de tout ça. Il vit dans un monde de croyances où tout est possible. Hein. Lucien Febvre a bien montré ça il y a très très longtemps, au XVIe siècle, tout est possible tout le temps. Et donc Montaigne, dans l'esprit des gens, je veux dire.
Même
et donc
si
Montaigne
tout le monde
est plutôt quelqu'un qui tend à restreindre le possible. Non, tout n'est pas possible tout le temps. Et dans sa vie, puisque c'est la question que vous me posiez, il rencontre effectivement la Boétie, magnifique rencontre qui change sa vie. Il rencontre aussi toutes sortes de fâcheux. Il manque deux fois de se faire assassiner pendant les guerres de religion. Dans tous ces cas-là, il adopte une attitude à la fois d'accueil et de méfiance.
Alors,
et de prudence.
Oui. Alors, la question des signes est une vraie question chez Machiavel, Gérald Sfès, parce que lui aussi déteste la superstition, sauf qu'il l'utilise, il pense qu'on peut l'utiliser politiquement. Si les masses sont crédules, eh bien, utilisons la chose. Il y a un passage dans les discours de la première Tite-Live, si je me souviens bien, qui est donc ce gros livre qui est vraiment la somme de sa pensée politique, qu'on a publié de manière posthume, où il dit, l'empereur Numa avait bien raison de regarder les oracles avec beaucoup de scepticisme. Il faisait semblant d'y croire quand ça lui convenait. Et puis quand ça ne lui convenait pas, ça n'avait aucune importance. Il se débrouillait pour en susciter un autre d'oracle. Grande liberté à l'égard du hasard et de la tentation d'en faire des signes. Qu'est-ce que vous en dites, Gérard?
Oui, alors je pense que... Il y a une grande liberté et une grande modération dans la pensée de Machiavel, contrairement à une possibilité de l'interpréter comme un penseur de l'extrême. C'est un penseur de la modération. Et sur la question des signes que vous me posez, je pense que pour lui, c'est plutôt le langage dans lequel on peut parler au peuple, à la multitude. Machiavel n'a aucune crédulité envers aucune providence, mais il pense en effet, et le choix que vous avez, l'élément que vous avez évoqué est tout à fait pertinent, que la religion des Romains permettait une plus grande souplesse dans l'usage de l'imaginaire et dans l'usage des signes. Mais ces signes sont plutôt, comment dire, c'est plutôt un langage dans lequel il parle à certains moments, ou un langage dans lequel il dit que celui qui, l'homme de virtu, doit parler parce qu'il parle à la multitude. Donc c'est, il y a toujours un regard critique par rapport à la vérité des signes et une certaine maîtrise de cet usage. Mais je crois que par rapport à la question, enfin sur la question de la fortune, il y a chez Machiavel, je disais une modération. Évidemment, Machiavel n'est pas un philosophe, c'est un écrivain politique.
Ce n'est pas un philosophe.
C'est quelqu'un qui se définit comme étant un historien et un homme de tragédie et de comédie. D'ailleurs, à son époque, il était bien davantage connu pour ses ouvrages littéraires. Donc, ses pièces de théâtre et certaines de ses pièces. Mais il vit dans un imaginaire qui est celui de la domination de la fortune et du fait que la fortune élève un prince quelconque que pour le ruiner juste après. Et il vit aussi dans un imaginaire dans lequel surtout à Florence, on compte sur les bienfaits de la fortune. Alors sa réaction, je dirais, sa pensée du politique est évidemment marquée par ce que Félix Gilbert a appelé les deux grandes images de la fortune et de la virtu qui sont explicatives et qui orientent sa pensée. Et ces deux grandes images,
comment
la virtu. Et qui est, je dirais,
la vertu, dirons-nous,
l'homme de vertu, l'homme de la virtuose, n'est ni un virtuose, ni un vertueux, c'est un valeureux.
Voilà, hein. C'est très dur à traduire en vérité.
C'est
pas du tout la morale habituelle attachée à la vertu, pas du tout. C'est le sens politique plutôt.
Pas du tout, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un sens moral de cette politique. Donc c'est le valeureux qui fait face à une situation pour que les choses se passent au mieux. Mais je crois qu'on va Machiavel aussi bien dans Le Prince que dans les discours dit par rapport à l'époque que les choses doivent s'équivaloir. C'est-à-dire d'une phrase, et avant qu'on parle plus précisément de cela, entre fortune et virtu, l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est cette idée d'équilibre qui est la pensée de Machiavel.
Donc vous diriez de non-maîtrise, puisque la virtu, c'est une façon de maîtriser un peu le politique en cherchant à s'appuyer sur toutes les forces, en ayant le sens des moments, enfin, et aussi de ce qui pourrait apporter de la gloire, qui est un enjeu important pour Machiavel. Mais la fortuna rebat les cartes tout le temps, et c'est pas mal, parce qu'on ne peut pas maîtriser. Et Machiavel, à la fin, au bout du bout, si j'ose dire, aime bien ça, qu'on se rappelle toujours qu'il n'y a pas de maîtrise en politique.
Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que chez Machiavel, et pour Machiavel, il y a un terme qui revient, c'est « néanmoins ». Et le « néanmoins » a deux sens. Parfois, la fortune agit, mais néanmoins la virtu. Et parfois la virtu agit, mais néanmoins la fortune. Et ce tamène qui revient constamment veut indiquer qu'il y a un équilibre entre les deux, mais la virtu n'a pas pour fonction de maîtriser la fortune. La fonction d'abord de, comme il dit, de s'y rapporter, s'y accorder, non pas s'y opposer. Mais saisir, mais évidemment, la virtu a un rôle, enfin le rôle de la virtu est de à la fois de saisir l'occasion et de prévoir le futur prochain. Parce que Machiavel est dans un temps, et en un lieu où on croit trop au bienfait de la fortune.
C'est-à-dire à Florence, à la charnière du 15e et du 16e siècle,
c'est voilà, là qu'il 1494.
Et dans ce temps, on croit encore, comme les Romains, beaucoup à la chance et à la malchance.
C'est ça.
Et d'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Vous avez fait référence aux travaux littéraires de Machiavel. Alors, les philosophes qui lisent Machiavel s'intéressent trop peu, peut-être, à ces textes littéraires, sont souvent beaucoup moins connus. Le Capitoli, en 1512, vous y intéressez. Et qu'est-ce que c'est que ce texte et quelles sont les représentations de la fortuna dans ce texte de Machiavel ?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison sur un point, c'est-à-dire que c'est pourquoi Félix Gilbert met bien l'accent sur cette notion de deux grandes images que sont la fortune et la virtu et qui orientent. On ne peut pas réduire la pensée de Machiavel à une conception totalement historiciste qui serait il y a les faits et l'enchaînement des faits. C'est-à-dire que les faits et l'enchaînement des faits se pensent à travers un imaginaire. Alors cet imaginaire est, pour répondre à votre question, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, celui que vous évoquez dans les Capitoli, qu'écrit Machiavel, où Machiavel nous dit que la fortune est mauvaise. Mm-hmm. Elle est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle ne fait monter quelqu'un, un prince, ou que pour en rire méchamment et le faire tomber. C'est-à-dire la fortune sourit aux audacieux, mais il faut... Mais je ne sais pas combien de temps elle aime sourire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle veut justement faire tomber celui qui a rivalisé avec elle. Et donc c'est un imaginaire négatif de la fortune dans le Capitoli. Et il y a aussi un imaginaire de l'occasion. Et alors c'est très étonnant d'ailleurs et intéressant parce que dans l'imaginaire de l'occasion, l'occasion est une enfant rieuse qui dit « Ah, est-ce que tu as réussi à m'attraper ?» Et tandis que la fortune est rieuse méchamment. Il y a une distinction entre les deux. Mais en tout cas, l'imaginaire que, dans lequel Machiavel pense, c'est un imaginaire où bien on fait confiance à la fortune, ou bien on la pense comme une puissance, une providence négative, une puissance méchante. Donc, ce que Machiavel va essayer de faire dans sa pensée, c'est, je crois, déplacer ce langage. Déplacer ce langage en donnant à la fortune d'abord le fait de ne pas être une providence. La fortune est le mot qui permet d'écarter la providence et c'est ce qui va permettre de penser l'action politique selon trois modalités, saisir l'occasion et prévoir. Saisir l'occasion, prévoir, et c'est-à-dire que la fortune, c'est très clair dans les discours, ça a du sens pour saisir l'occasion, ça a du sens parce que c'est aussi la nécessité. Par exemple, on a construit une cité dans un but qui n'est pas de s'agrandir. Or, la nécessité vous force à l'agrandir, et là, c'est la fortune.
La fortune, ce n'est pas que le hasard, c'est la nécessité.
Non, ce n'est pas que le hasard. D'ailleurs, quand la preuve en est, c'est que lorsque Machiavel parle du fait que la loi dans la République de Florence est le résultat des accidents, entre les deux puissances que sont les forces sociales du peuple et des grands, il nous dit « ce que la loi ne fit pas, le hasard le fit ». Et là, c'est caso, c'est pas fortuna.
Là, c'est le hasard.
C'est le hasard,
donc, au sens strict.
Au sens strict. Mais là, c'est le hasard au sens strict. C'est pas la même chose que l'occasion, c'est pas la même chose que l'événement, et c'est pas la même chose que la nécessité. Et le mot « fortune » a toutes ses acceptions. Je crois que c'est assez important.
C'est très important ce que vous dites parce que ça montre que le hasard n'est pas une petite question de la politique et en plus n'est pas une question univoque. Il y a une pluralité de visages du hasard. Je voudrais revenir vers vous, Julie Botorel. Vous soulignez beaucoup que le tirage au sort, avec tous ses sens possibles, est utilisé non seulement en démocratie, à Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi à Rome, aussi bien au moment de la République que de l'Empire. Et peut-être que là, il y a un lien avec Machiavel. Souvent, Machiavel, on le connaît à cause du prince, et donc on serait tenté de croire que ce texte est tellement lu. C'est un grand conseiller des princes, un monarchiste, mais pas du tout. C'est un républicain. Il avait des vraies fonctions dans la République de Florence, et après, il se tourne c'est là que j'en viens à l'occasion, vers un prince en se disant « Bon, je suis un républicain, mais si le prince peut faire quelque chose, je saisis l'occasion. » Est-ce que cette fluidité du parcours de Machiavel, Julie Botorel, rappelle ce que vous étudiez comme historienne, c'est-à-dire que les mêmes pratiques politiques diffusent de la République à l'Empire, en souvenir de la démocratie athénienne, bref, que c'est fluide, que c'est un monde qui n'est pas figé, les régimes politiques ne sont pas figés, ils empruntent des autres régimes.
Oui, bien sûr. Cela montre aussi que les pratiques politiques peuvent avoir des effets différents en fonction des régimes qui les appliquent. Alors, c'est le cas pour le tirage au sort, qui peut avoir des effets plus ou moins démocratiques en fonction aussi du type de régime qui en a l'usage, qu'il soit aristocratique, monarchique, etc. Mais c'est aussi le cas pour l'élection, par exemple. Donc, des mêmes pratiques, en fait, peuvent se retrouver dans des régimes très différents, à des époques très différentes, mais avoir, en fait, des effets, finalement, fort divers, voilà, en fonction du contexte. Alors, dans le cas du tirage au sort, par exemple, à l'époque impériale, les tirages au sort qui étaient effectués, donc à Rome, au moment où c'est une monarchie, sont des tirages au sort qui laissent, finalement, assez peu de place au hasard. Pourquoi ? Eh bien parce que le tirage au sort en amont est en fait filtré, conditionné par toute une série d'étapes, la sélection des candidats, par exemple, par divers moyens, ça peut être des votes, des élections, cooptation, la mise en place de critères, l'intervention du prince aussi dans le choix des candidats. Et puis même en aval du tirage au sort, parce que c'est pas forcément la dernière étape du processus de sélection.
Alors, évidemment, Montaigne, c'est quand même un autre monde que celui de Machiavel, au sens où il y a plus de 60, 70 ans d'écart entre le moment où écrit Machiavel, début du XVIe siècle, et la fin du XVIe où écrit Montaigne. Mais enfin, des pratiques plus que des principes, comme vient de le dire Julie Botorel, qui est typiquement machiavélien comme approche du politique, c'est très montanéen aussi. Est-ce qu'on dit d'ailleurs montanéen ?
Comment on dit montagnien. On dit montagnien. Montaigniste. Bon. Il y a plusieurs adjectifs utilisés.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que, étrangement, parce qu'on les rapproche peu, il y a plein de choses de Machiavel et de l'Antiquité politique chez Montaigne ?
Alors, de Machiavel, je ne sais pas. Montaigne lisait l'italien, on ne sait pas ce qu'il avait lu ou pas lu de Machiavel. En revanche, lisait le grec, enfin le grec un petit peu, mais alors le latin qui était sa langue maternelle en fait, comme le français. Il avait une énorme culture des historiens latins et de toutes ces questions-là. Il y a quelque chose qui m'a frappé beaucoup dans ce qu'a dit Gérald Fès à l'instant, oui. C'est le mot « néanmoins ». Néanmoins, parce que on a l'équivalent chez Montaigne, pas forcément le mot néanmoins, mais des formules du même type où il dit la fortune elle peut beaucoup, elle peut tout. Ah oui, mais quand même, bon voilà. Ou bien la raison, parce que Montaigne n'est pas du tout un ennemi de la raison. Hein, il est contre l'orgueil de la raison, mais pas contre l'efficacité de la raison. La raison, ben oui, mais parfois la fortune se rencontre au train de la raison, c'est-à-dire la fortune va faire quelque chose que la raison n'a pas réussi à faire. Et on a le même mouvement d'équilibre, voilà. J'ai un peu perdu votre question, excusez-moi.
Je voudrais savoir si finalement il y a un effet historique malgré tout. Au XVIe siècle, on adore les héritages non exclusivement religieux, oui. Monothéistes.
Oui.
On adore la plasticité, c'est-à-dire le tirage au sort, l'Empire, la République, Rome, Athènes, la démocratie, tout le monde l'utilise un peu.
Oui.
Et au fond, les pratiques ont une sagesse plus grande que les principes fermes, c'est ça ma question.
Oui, merci. Petit rappel, les 40 années de la vie active de Montaigne, c'est sur fond de guerre de religion, d'une violence considérable, où les principes sont censés se bafouer, et où les pratiques sont épouvantables. Ne jamais l'oublier. Deuxièmement, il y a quelque chose de juste dans ce que vous dites. Montaigne se tourne davantage vers les pratiques, c'est vrai, à la fois pour juger les sociétés ou pour juger les individus. Je regarde comment il agit et non pas la façon dont il dit qu'il va agir ou dont il agit. Ça, c'est tout à fait certain. Mais il y a quand même un fond de scepticisme concernant la capacité humaine à s'auto-régler. Les pratiques et les principes sont un peu brinque-ballant et l'un n'emporte pas sur l'autre.
Ce que vous venez de dire rappelle quand même que la fin du XVIe siècle est beaucoup plus sombre que le début.
Oui.
À cause des guerres de religion. Il y a cette formule que vous nous avez indiquée, très importante, à propos du hasard pour Montaigne. Le hasard, c'est aussi ce qui angoisse, c'est aussi la mort qui rôde.
Oui.
Je me suis couché 1000 fois chez moi, écrit Montaigne, imaginant qu'on me trahirait et assommerait cette nuit-là, composant avec la fortune que ce fut sans effroi et sans langueur. Je vous laisse commenter.
Oui, c'est une phrase très typique. L'historien Jérémy Foy, qui a beaucoup travaillé sur les guerres de religion, considère que c'est en quelques lignes l'éthos d'une grande partie de la population française pendant les guerres de religion. C'est-à-dire la crainte d'être assassiné la nuit et parfois entre mari et femme par son conjoint. Bon, il y en a des exemples. Bon.
C'est vraiment à ça qu'il pense quand il écrit.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Montaigne a failli être assassiné au moins 2 fois, il l'explique dans le chapitre de la physionomie. Mais par ailleurs, il y avait une inquiétude, alors non pas de Madame de Montaigne, dont il ne craignait rien, mais de mourir, d'être assassiné pendant son sommeil. Et ce composant avec la fortune est très intéressant. Montaigne dit... je ne veux pas être lâche au moment de mourir et je ne veux pas souffrir au moment de mourir. Donc, ok, si je dois être assassiné cette nuit, bon ben, je l'accepte, mais je veux bien négocier avec la fortune comme si elle pouvait l'entendre. Mais de mourir sans effroi et sans horreur, quoi.
Gérald Sfez.
Oui, je pense que concernant la parenté entre Machiavel et Montaigne, on sait peu de choses, mais on sait que Montaigne a lu les discours et en a eu de l'estime. Par contre, qu'il hérite d'une part, et il hérite en même temps, pardon, de la même culture latine de Tite Live et de Tacite, etc. Donc, il parle dans la même langue. Mais en même temps, évidemment, il est marqué par l'interprétation française de Machiavel, c'est-à-dire le machiavélisme, défendu d'ailleurs, contredit, je veux dire, par Gentillet. Et il dit qu'il ne se fie ni à l'un ni à l'autre. Ni au texte du prince, ni à ce qu'en dit Gentillet. Donc il y a une sorte de prise de distance et de réserve vis-à-vis de cela.
Et un sens de l'art d'écrire ici que Machiavel n'est pas toujours libre dans ses écrits, selon les moments, il est différent, on change, etc. C'est ça aussi.
Et alors je voudrais revenir sur la question de l'occasion, parce que vous avez évoqué très justement le fait qu'il écrit le prince pour saisir l'occasion dans la situation, alors que lui a été pendant 15 ans quelqu'un d'important à la chancellerie de Florence, eh bien, un conseiller à la chancellerie de Florence et un premier conseiller, eh bien, il écrit le prince. Et il y a cette question de l'occasion ici qui est très importante et qui, justement, fait aujourd'hui objet de débat. Parce qu'à la fin du prince, il dit l'occasion est là pour unifier l'Italie. Alors évidemment, l'unification de l'Italie est un rêve, pour autant que des conditions ne sont pas là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, comme des recherches actuelles ont essayé de le montrer, il ne le dit pas ça dans le vide. Mmh. C'est-à-dire qu'il le dit à un moment où la famille Médicis tient à la fois Rome, par la papauté, et Florence. Et où il y a une possibilité, non pas de l'union de l'Italie telle que nous la représentons, mais d'une sorte de solidarité politique des cités italiennes puissante. C'est pour ça que Claude Lefort dit c'est à la fois un jeu et c'est en même temps un peut-être. Et donc il tente le hasard, il tente le possible, parce qu'on n'est jamais sûr de la ligne de l'impossible. Ça, c'est un point très, très important pour lui.
Alors, on n'est jamais sûr, on doit s'organiser, on doit se préparer. Ces choses se retrouvent aussi bien chez Machiavel et chez Montaigne, mais peut-être avec des tonalités différentes. Je vais introduire ce problème. Je voudrais qu'on sache bien notamment ce que Montaigne veut dire par se préparer ou ménager la fortune. Je vais l'introduire par un drôle d'extrait sonore. C'est celui, un extrait du film Casino, film qui met en scène des escrocs, en vérité. Mais voyez cette scène où, en réalité, ils ne trichent pas, ils s'organisent. Écoutez.
C'est les gros poissons du genre de Keke Ichikawa qui jouent 30 000 dollars la main au baccarat. C'est eux que t'as intérêt à serrer de près. Ils jouent vite et ils jouent gros. Et il a le répondant et le crédit pour t'envoyer au tapis. L'an dernier, il a nettoyé 2 ou 3 casinos aux îles Caïmans. Au rez-de-chaussée, il nous refait 2 millions. Et à l'étage, il a nos shampoings, serviettes et savonnettes à l'œil. Le genre de milliardaire rapier comme pas deux qui prenait son pied avec les suites et les jets privés gratos. Et 2 millions de dollars de notre blé.
Au revoir.
Mais on l'a fait redescendre. Je lui ai fait dire par notre pilote que l'avion était naze.
On vient de le faire réviser, toutes nos excuses. C'est incompréhensible, ces ennuis mécaniques. Vous savez, ça arrive, enfin. Vaut mieux être ici qu'en plein ciel à ce moment-là.
Ensuite, il a raté les vols réguliers à destination du Japon.
Au congrès, maintenant ils font du congrès.
Qu'est-ce que
ça fait, les gars ?
On l'a ramené. Il a eu tout un étage de l'hôtel pour lui seul.
Navré que vous ayez raté votre avion.
Vous voulez me reprendre votre argent ?
Non.
Et une fois qu'il s'est retrouvé là, il a joué petit. Il a joué à 1000 dollars la main au lieu de ses 30 000 en temps normal.
La banque gagne avec un 8 naturel contre un 5.
Moi, je savais que l'astuce avec les flambeurs comme Ishikawa, c'est qu'ils ne savent pas jouer petit jeu très longtemps. Il s'est pas dit qu'il avait gagné 10 000, mais qu'il avait perdu 90 000. Alors il a augmenté ses mises. Jusqu'à ce qu'il ait reperdu tous ses gains et en ait craché 1 million de plus de sa poche. Au casino, la règle d'or, c'est de les faire continuer à jouer encore et encore. Plus ils jouent longtemps, plus ils perdent. À la fin, on ramasse tout.
Le film de Martin Scorsese, Casino, de 1995, où on voit ces escrocs non pas changer les règles, non pas tricher, mais mettre en condition les kékés milliardaires, disent-ils, qui arrivent et qui raflent tout long un certain temps parce qu'ils ont plein d'argent. Ben on les fait jouer, ils misent moins. C'est malin comme tout. Est-ce que Montaigne saluerait la ruse, d'après vous, Bernard Sève?
Il n'aime pas beaucoup les ruses, Montaigne. Il aime quand même la vertu. Je reviens juste une seconde en arrière. Il a beaucoup lu Tite-Live et Tacite, mais il a aussi lu Plutarque. Et
oui.
Plutarque équilibre un peu Tite-Live et Tacite. Et donc, les jeux de hasard, je crois pas que la ruse, non. Non, il n'aime pas
la ruse. En tout cas, mettre en condition, quitte à...
Oui.
Oui, avoir la main un peu lourde, agir... Bon, comme il... Peut-être ces ruses-là ne les conditionneraient-ils pas, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous croyez que se mettre en condition
pour... Oui, alors se mettre...
Ça
m'intéresse beaucoup. Ça. Montaigne aimait les jeux de hasard. Alors évidemment, il n'y avait pas de casino à l'époque de Montaigne. Il parle du jeu des cartes, du jeu des dés, où on jouait de l'argent. Mais c'était dans le cercle privé, soit de sa famille, soit un cercle avec quelques nobles du voisinage. C'était pas une entreprise destinée à faire perdre l'argent en les faisant jouer très longtemps, comme le dit l'excellent extrait que vous avez proposé. Et il explique pourquoi il a cessé de jouer aux jeux de hasard. C'est pas du tout qu'il l'ait condamné. C'est que il n'aimait pas sa réaction, il avait beau, dit-il, faire bonne mine quand il perdait, en réalité, il en avait une piqûre intérieure insupportable. Et c'était donc pour se préserver de ses propres mauvais affects devant ses pertes qu'il a renoncé au jeu de hasard. Ça, c'est intéressant.
Oui, très intéressant.
Alors, Montaigne considère de manière générale que la ruse n'est pas digne d'un gentilhomme. Il est un gentilhomme et il vaut mieux gagner par force ou par raison plutôt que par ruse. Mais le monde est tellement mal fait et les gens sont tellement méchants que parfois il faut ruser parce que c'est le seul moyen d'obtenir quelque chose, mais quelque chose de vertueux.
Oui.
Mais ruser pour gagner de l'argent, ça c'est insupportable pour un jeune pour un récent gentilhomme qui avait toujours son épée au côté, comme si de sa noblesse.
C'est donc la limite du rapprochement avec Machiavel.
C'est la limite du rapprochement avec Machiavel.
Gérald Sfeld, il adore la ruse, Machiavel. Il aurait peut-être même beaucoup aimé ces escrocs qui se débrouillent pour que les grands gagnants, à force de jouer, perdent.
Je ne le pense pas.
Pourquoi
je ne peux pas parler à sa place. Bon, non, ce que je voudrais dire, c'est que, en effet, chez Machiavel, il y a l'idée essentielle de la ruse. Mais la ruse est donnée comme préférable à la force parce qu'elle permet de saisir l'occasion sans faire le plus de violence. Et d'une certaine façon, la ruse n'est pas considérée comme quelque chose de pire que la force, mais comme quelque chose qui permet de contourner le rapport de violence. Alors, il faut dire qu'il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, et je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ça, sur la question des guerres. Parce que Machiavel a écrit, à la fin de sa vie, vers la dernière année, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu affaire à la guerre, ou bien on l'a faite, ou bien on en a parlé, et quand on n'en parlait pas, on la faisait, et quand on ne la faisait pas, on en parlait, ce qui fait qu'on n'a jamais pu penser. Et je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est un écrivain politique, et s'il est, et je crois que c'est là peut-être qu'il se trouve une différence, une proximité avec Montaigne, c'est-à-dire la question d'être en temps de guerre. Mais s'il y a une différence à noter, c'est que Machiavel, est un écrivain politique, et donc ce qu'il veut faire, c'est une pensée de la modération, ce n'est pas une sagesse. Montaigne, c'est une sagesse. Donc je crois qu'il faut
et
faire
la pensée
une grande,
de la modération n'est grande, pas une sagesse chez Machiavel.
Pas nécessairement. C'est une manière d'avoir un rapport humain. Et c'est pourquoi il dit constamment, il y a autant de virtus que de fortuna. Dans l'histoire, il y a la même quantité de bien et de mal. Sans cesse, il essaye de mesurer les hommes. Et de mesurer, c'est ça qui est intéressant chez Machiavel, c'est-à-dire qu'il y a à la fois mesurer la puissance de la fortune et mesurer les hommes. L'homme n'est pas tout puissant et la fortune non plus. Et la fortune n'est pas nécessairement mauvaise. On évoquait la question de l'occasion, mais lorsque à la fin du Prince, Machiavel parle de l'occasion, il dit l'occasion est donnée. Il n'y a pas de meilleure occasion que la fortune propose ici, sinon de présenter une situation tel qu'il soit requis qu'il y ait un prince, un grand prince qui puisse faire face aux envahisseurs. Ça, c'est le discours de la fortune image. La fortune image. La fortune n'a pas de plus grand, a souvent pour rôle de susciter des ennemis pour qu'il y ait le courage de l'homme de virtu. Mais s'il n'y avait pas à côté l'occasion favorable, à savoir que les Médicis tiennent à la fois la papauté et Rome, il n'aurait pas évoqué cette question de ce discours. Donc, il tient plusieurs discours en même temps qui s'ajointent avec cette idée, et je voudrais juste terminer sur ça, que l'attitude de la virtu, c'est de devoir faire face à la qualité des temps. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être impétueux ou est-ce qu'il faut être, au contraire, comme Fabius Cunctator, tempéré. Et c'est pour ça que dans le discours 3.1, je termine sur ça, dans le discours 3.1, il nous dit le problème, c'est ce que j'ai écrit, le prince sans qualité, c'est-à-dire que le prince ne peut pas jouer tous ses rôles successivement. Mm-hmm. Parce que, d'une part, il a un naturel particulier, oui. Et tous les hommes n'ont pas la même nature, je crois que ça la différencie avec Montaigne. Donc, il y a un naturel particulier, et d'autre part, lorsqu'il a réussi sur une voie, il continue sur cette voie. Tandis que la République, eh bien, elle change d'homme devant une nouvelle situation.
Très intéressant. On va prolonger. Je vous propose d'écouter un extrait du Joueur de Dostoïevski, lu par Pierre-Olivier.
Si ridicule que cela puisse paraître de fonder un espoir sur la roulette, je trouve encore plus ridicule l'opinion courante d'après laquelle il faut être un sot ou un fou pour en attendre quelque chose. Et en quoi le jeu serait-il pire que toute autre façon de gagner de l'argent ? Que par exemple le commerce. Il est vrai qu'ici, sur 100 joueurs, il y en a un qui gagne et 99 qui perdent. Et qu'est-ce que cela me fait ? Je me disais que le mieux serait de regarder d'abord jouer les autres et de ne pas commencer encore, enfin du moins pas sérieusement. Si je ne pouvais faire autrement que de jouer ce soir-là, je ne voulais le faire qu'en manière d'essai. Tout cela changea quand je pus voir de mes propres yeux. La première impression que j'en eus fut très désagréable. Cela me parut d'abord malpropre, en un certain sens, moralement malpropre et vulgaire. Ce qu'il y avait de particulièrement laid dans le groupe des joueurs, c'était ce respect pour le jeu, ce sérieux, un sérieux qui touche à la vénération et avec lequel il se pressait à la table de jeu.
Les vrais joueurs sont sérieux. Et même quand on déteste le jeu, on le voit, et peut-être est-ce ce sérieux qui manque, ou alors il est trop fort chez Montaigne, et lui aussi, comme apparemment ce que dit le narrateur, ce n'est qu'un moment dans Le Joueur de Dostoïevski, il n'aime pas, c'est tellement sérieux, au fond, que c'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas le jeu, Montaigne, Bernard Sèvres.
Alors, Montaigne a une pensée assez complexe du jeu, qui est un peu disséminée, dans ses essais. D'abord, il dit les jeux des enfants sont leurs plus sérieuses occupations. Et par conséquent, il ne faut pas prendre à la légère un enfant qui vole, qui triche, Bon. Deuxièmement, il y a quand même chez Montaigne une analyse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aliénation, ou même une sorte d'auto-aliénation dans l'action. Et par conséquent, les hommes d'action qui se croient tels se prennent au sérieux de leur propre jeu jusqu'à ne plus voir qui sont la proie de passions qu'ils ont eux-mêmes déclenchées et qu'il y a il y a un autre monde que celui dans lequel ils s'enferment. Je ne sais pas si je m'explique bien.
En tout cas, j'entends, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, que le... Oui, il y a un sérieux terrible du jeu, et c'est peut-être ça qui lui fait peur aussi à Montaigne dans son... Vous l'avez dit tout à l'heure...
C'est possible.
Ça vous paraît possible.
C'est possible que lorsqu'il dit que c'est parce qu'il se méfie de ses mauvaises réactions quand il perd, qu'il a abandonné tous les jeux de hasard, c'est peut-être aussi parce que s'il a une telle réaction quand il perd, c'est qu'il a pris trop au sérieux le jeu. C'est très difficile de jouer en se disant « ce n'est qu'un jeu » et en vivant « ce n'est qu'un jeu ». Et donc, il vaut mieux se retirer complètement. D'ailleurs, Montaigne a beaucoup de formules qui tournent autour de l'idée « je suis prêt à servir le prince », il est un ami d'Henri IV, enfin Henri de Navarre, le futur Henri IV, « je ne veux pas que mon affection m'entraîne au-delà de ce que je veux ». Et je veux garder mon arrière-boutique, etc., etc.
Il y a un endroit, c'est le texte que vous avez déjà cité dans l'émission De la physionomie, donc c'est dans l'essai numéro 12 du troisième livre de Montaigne, des essais, où il emploie une drôle de formule qui me paraît à première vue contradictoire avec plein de choses que vous avez dites sur Montaigne par ailleurs. Il dit « je suis homme qui me commet volontiers à la fortune et me laisse aller à corps perdu dans ses bras. » Mais d'après tout ce que vous disiez, j'avais l'impression, Bernard Sèvres, qu'au contraire, jamais il ne faut faire cela. Il faut ménager le fortuit, il faut faire attention, il ne faut pas se jeter à bras-le-corps dans la fortune.
Si Montaigne me dément, c'est lui qui a raison. Mais je pense que ça n'est pas... Qu'on peut lire ça un petit peu autrement. Comme toujours avec Montaigne, il y a deux ou trois phrases éclatantes, mais qu'il faut remettre dans le contexte avant et après. Et donc, il y a une position où Montaigne il aime bien se présenter comme quelqu'un qui ne craint pas de prendre des risques, de prendre son risque, comme on dit un peu ridiculement aujourd'hui. De ce point de vue-là, il se commet à la fortune, c'est-à-dire qu'il est audacieux. C'est aussi il est sage, il est prudent, mais il est aussi audacieux quand il le faut. Il n'hésite pas à prendre des risques. Et il dit dans la suite du texte qu'en fait, il s'en est plutôt bien trouvé, mais pas tout le temps. Mais plutôt bien trouvé. À l'arrivée, la fortune a parfois mieux réglé ses affaires qu'il ne l'aurait fait lui-même. Mais cela n'empêche pas que s'il se commet à la fortune, c'est quand il le décide. Je veux dire...
Donc il y a quand même de la...
Voilà, c'est quand il
le
décide.
Du jeu personnel avec elle.
Il y a un jeu personnel. Mais quand il lui arrive quelque chose de bon ou de mauvais qu'il n'avait absolument ni prévu ni anticipé, alors là, il n'est pas question de se laisser aller au vent des événements. Il est question d'essayer de les gérer, enfin le mot est horrible, mais les ménager dans le vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire d'en faire quelque chose et les intégrer à sa propre vie.
Mais si la fortune lui fait rencontrer un ami comme la Boétie, là, on peut tout à fait se laisser aller à corps perdu entre les bras de la fortune, tant elle a apporté une belle chose.
Oui,
c'est
alors là, c'est aussi un peu plus compliqué, parce qu'il y a un texte célèbre dans le chapitre de l'amitié, où il explique comment il a rencontré lors d'une grande fête.
C'était pas si simple, c'est ça ?
Dans une grande fête physique, il a rencontré la Boétie, mais en fait, il se connaissait déjà, de nom. Ils avaient entendu parler l'un de l'autre et ils se cherchaient d'une certaine façon. Quelque part, Montaigne dit c'est presque le destin qui nous a réunis. mais c'est un destin que l'un et l'autre, ils étaient jeunes magistrats tous les deux, hein, une trentaine d'années, un peu plus pour la Boétie, que l'un et l'autre avaient provoqué. Donc effectivement, le hasard fait qu'ils se sont rencontrés ce jour-là, mais ils seraient rencontrés un mois ou deux mois après, étant donné la structure de la vie sociale parlementaire, au sens de cour de justice, de Bordeaux.
C'est voilà. Troublant, vous venez de parler du hasard en disant le destin. J'ai l'impression que souvent, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous faisons cette série. C'est très difficile. Souvent, quand on croit au hasard, on lui donne, on lui concède même quelque chose, on est immédiatement tenté de le convertir en destin. Bernard Sèvres.
Oui, c'est une manière de lui donner un sens, tout simplement. Oui. Le hasard, le pur hasard, est quelque chose d'intolérable. On ne peut pas accepter que quelque chose ou de très beau ou d'épouvantable nous arrive sans aucune raison d'aucune sorte. Alors si on est croyant, on dira la Providence, et si on est ou incroyant ou plus prudent, on dira le destin, c'est une manière de donner un sens.
Gérald Sfèche, je vous laisse la parole, mais je suis vraiment désolée, nous n'avons plus qu'une minute.
Ah d'accord.
Si vous voulez conclure sur cette question du destin, je vous ai senti... hocher la tête avec un accord fondamental sur ce problème.
Oui, je pense que pour Machiavel, il s'agit de ne pas se laisser prendre au jeu. Et parce que précisément le jeu peut susciter la passion du destin. Mais par contre, il s'agit de simuler et dissimuler. Donc toujours garder un quant à soi. Quant à l'action que l'on mène, et ne pas se laisser déposséder par la confiance en une image qui comment dire
trop lisse, voilà, on va dire comme ça
oui,
vous va.
Si j'ai suivi l'étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard?
Est-ce par hasard si elle a le cœur qui s'égare?
Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre? Surpris, on se découvre.
Une fois n'est pas coutume, vous venez d'entendre Dave dans Avec Philosophie. Est-ce par hasard, un titre sorti en 1976, il faut dire que c'était vraiment, vraiment en lien avec le sujet du jour. Merci beaucoup à tous les trois, Julie Botorel, Bernard Sèvres et Gérald Sfèze. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il réfléchit à la notion de monde et à l'état du monde. Voici le pourquoi du comment. «
Pourquoi vit-on dans plusieurs mondes ? Lorsque nous disons d'un être humain ou de nous-mêmes qu'il vit dans son monde ou qu'il vit dans un monde particulier, un petit monde, par exemple le grand monde ou le demi-monde, comme on disait au début du XXe siècle, à la Belle Époque, on disait qu'il y avait des mondains et des demi-mondains et même des demi-mondaines avec tout un tas de présupposés et de jugements, eh bien, quand nous disions que les êtres humains vivent dans plusieurs mondes, dans des petits et dans le grand monde, nous ne pensons pas aux étapes, aux étages naturels de l'univers. Nous ne pensons pas, par exemple, au petit monde de notre vie quotidienne, opposé au grand monde du cosmos, à la nature en général. Non, nous pensons à des mondes sociaux, à des mondes qui, en effet, peuvent avoir quelque chose d'étanche, comme si vivre dans son monde, c'était être incapable de partager le monde des autres. Chacun vit dans un monde. Qu'entendons-nous exactement par cette notion sociale de monde qui fait en quelque sorte écran que nous pouvions avoir besoin de critiquer pour accéder à un monde commun, à ce monde qui, dans son idée même, l'idée même de monde, semble impliquer l'idée d'un ordre commun, d'un ordre de la nature et de l'univers. Pour cela, il faut revenir à une notion peut-être plus concrète de monde que celle qu'utilisent dans leur polémique les tenants de la nature et les tenants de la politique. L'idée que le monde serait avant tout l'espace public universel ou bien au contraire l'espace naturel universel. La notion de monde recouvre, au fond, l'ensemble des dimensions du milieu de vie des êtres humains. Le monde est défini, il me semble, par le milieu de la vie humaine, dans toutes ces dimensions. Les humains vivent évidemment dans un monde naturel, un monde fragile. Ils vivent aussi dans un monde public, dans un monde politique, qui est peut-être la garantie de toutes les autres dimensions et sur lesquelles il faudra revenir. Mais nous vivons aussi dans des petits mondes, dans des mondes sociaux, dans un monde d'abord qui, à la naissance, se constitue autour du centre, qui est un nourrisson fragile, ce monde du prendre soin, ce monde qui est pour le petit nouveau-né, le monde tout entier. Son monde, peut-on dire, se limite à cette relation, mais dans cette relation, les psychiatres et psychanalystes montrent que s'ouvre le rapport au monde. C'est d'abord entre nous, dans la relation inter-individuelle, que s'ouvre le rapport à l'extérieur, aux objets et à l'univers. Ce premier monde est la condition de tous les autres. Mais il peut en effet se refermer. Le monde social, avec ses codes, définit une sphère peut-être fermée, peut-être étanche, peut-être guerrière, qui fait que les mondes vont être en guerre, qu'il y a une guerre des mondes. Une guerre des mondes qui n'a pas besoin d'avoir des extraterrestres qui des boules sur la Terre, comme dans le livre de science-fiction qui porte ce titre, mais une guerre des mondes parce que les mondes sociaux peuvent en effet se refermer pour des raisons de repli, de limites et de besoins vitaux. L'étanchéité des mondes peut conduire à la guerre. Il faut donc, par-delà nos petits mondes absolument nécessaires, s'ouvrir d'abord pour éviter la guerre sur la possibilité d'un monde commun, à la fois naturel et public. On doit garder l'idée de monde. Bien sûr, aujourd'hui, les dangers du monde amènent chacun à se replier paradoxalement au lieu de les résoudre, mais il faut retrouver le sens du monde public et politique où la diversité est la condition du monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur le site franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera, avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Axel Dubois. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité!